Vous êtes toujours sur le studio Kalangu. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal au micro Nefissa Adam Sirfo. Au sommaire de cette édition, 24 heures après le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle du Mali, l'heure est au bilan. Selon nos confrères du studio Tamani, le scrutin a été émaillé d'incidents. Ils dressent un bilan dans une correspondance que vous suivrez dans ce journal. Hajj 2018, le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umra attire l'attention des futurs pèlerins quant au respect de la décision interdisant le transport des produits prohibés à la Mecque. À suivre en partie magazine, l'éclairage d'une magistrate sur les rues du monde du code pénal concernant la mendicité au Niger. Pour cette élection présidentielle 2018 au Mali, la sécurité reste un enjeu essentiel. Le scrutin intervient dans un contexte où de nombreuses localités échappent au contrôle du pouvoir central du fait d'attaques terroristes et autres actes de banditisme. Mariam Koulibaly du studio Tamani.
L'élection de ce dimanche s'est déroulée normalement dans les centres urbains sans incident majeur, dans les régions de Kay, Koulikoro et les districts de Bamako. Malgré des cas d'achat de conscience constatés, les électeurs ont pu voter sans être inquiétés. Dans les localités de Kay, Sikasso, Koulikoro, Mopti-Gao et Bamako, il a été signalé des tentatives d'utilisation de plus de 2 procurations par certains mandataires, note le pôle d'observation citoyenne du Mali, qui a déployé plus de 2000 observateurs pour ce premier tour. Au centre et au nord du pays, de nombreuses localités ont été privées de vote. Plusieurs attaques ont empêché la tenue du scrutin. Alors que le gouvernement évoque un chiffre de 644 électeurs qui n'ont pas voté, l'opposition à travers l'URD dénonce plus de 600 bureaux de vote fermés à travers le pays du fait de l'insécurité. À la fin de cette journée de lundi, aucun chiffre officiel n'est encore disponible sur le taux de participation. Mais à la veille du scrutin, le taux de retrait des cartes d'électeurs était estimé à 76%. Selon la loi électorale, le ministre de l'administration territoriale a 5 jours au plus tard pour la proclamation des résultats. De Bamako, Mariam Koulibaly pour Studio Kalangu.
Au lendemain donc de l'élection présidentielle à premier tour du Mali, le représentant de la Commission électorale nationale indépendante malienne dresse un bilan très satisfaisant du scrutin au Niger. Le taux de participation est compris entre 60 à 65% de la capitale Niamey où le candidat Soumaïla Cissé est en tête avec plus de 1000 voix. Soumaïla Mega, président de la CENI du Mali au Niger, au micro de Habibou Garba.
Les élections se sont bien déroulées. On a commencé à 8h et on a fermé à 18h. Après 18h, on s'est retrouvé à l'ambassade pour la centralisation. Au début, on a eu un peu de bousculade. Les gens veulent voter en primaire pour aller à la maison, c'est normal. Mais avant 10h, 11h, ça s'est stabilisé. Maintenant, au niveau des 21 bureaux de la commune de Niamey, on a terminé, on attend les délégations de l'intérieur. Zender, Maradi, Tilaberi, Ayeru, Dosso et Koné. On a fait une évaluation. Les tendances relèvent que le candidat Soumaïla Cissé est en avance parce qu'il a au moins 1552 voix et le président sortant à 970 voix. Mais ce n'est pas terminé, ça c'est les tendances. On attend bien les délégations de l'intérieur. Sur le pourcentage, on peut dire qu'on est en-dessus de 60%.
Les résultats ici à Niamey, vous pouvez les centraliser d'ici à quand?
D'ici à 18h. Celui qui prend du temps, c'est Zender, parce qu'il ne vient pas le quart. Et le quart de Zender arrive à vers 16h, 17h comme ça. Sinon, on peut proclamer les résultats globaux provisoires aujourd'hui avant 18h.
Le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et à la Umra a animé mardi dernier un point de presse. Cette sortie médiatique est relative à la fin des préparatifs du Hajj 2018. Plusieurs points ont été abordés, parmi ceux-ci le non-respect par les pèlerins des produits prohibés à la Mecque. Jibril Aboukari, commissaire, a lancé un appel à l'endroit des pèlerins nigériens. Il est au micro de Diallo Mariama Kenda.
La cola est prohibée au-delà de 2 kilos. Elle est interdite en Arabie Saoudite par pèlerin. Parce qu'ils disent qu'un pèlerin qui vient pour un mois, 2 kilos de cola lui suffisent. Nos amis de la police de l'aéroport, nos amis de la gendarmerie de l'aéroport, ça c'est à tous les niveaux, il faut que les gens y veillent. Il y a d'autres denrées alimentaires dont les gens amènent. C'est les différentes plantes à sauce. Ils amènent ça là-bas. Il y a aussi cette histoire de sacs. À partir d'ici, vous voyez des gens prendre de gros sacs, des valises pour aller en Arabie Saoudite. Alors que ça fait 2 ans que l'Arabie Saoudite nous dit que tout le monde fait des sacs identiques, sauf quelques pays, dont le Niger. Cette année, nous nous sommes entendus à faire fabriquer ces sacs-là pour les pèlerins nigériens et à leur faire accéder à ces sacs-là. Un pèlerin qui va à la Mecque pour pèleriner, il prend ces 2-3 complets. Tout le reste, ce qu'il utilise là, c'est des ihram.
C'était là le haut-commissaire du Coro, Jibril Boukhari, et retenez que selon des informations recueillies auprès de certaines agences de pèlerinage, le premier vol des pèlerins nigériens en direction des lieux saints de l'islam est prévu cette nuit en principe. Hier dimanche 29 juillet 2018, c'était le 27e anniversaire de l'ouverture de la Conférence nationale souveraine du Niger. Pour marquer cette date anniversaire, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement a organisé à son siège ici à Niamey une table ronde avec plusieurs panélistes sur diverses thématiques visant à faire le bilan de la gouvernance politique, économique et sociale 27 ans après ce grand rendez-vous historique ayant permis l'avènement de la démocratie au Niger. On écoute à ce propos le président du REPAD, Seydou Abdoulaye, au micro de Michel Dégé.
Malgré que nous avons une constitution qui consacre des institutions régulatrices de la démocratie, beaucoup de défis restent encore à relever. Aujourd'hui, quand vous regardez la société nigérienne, il y a une rupture totale du dialogue. D'abord, rupture du dialogue au plan politique, donc entre les acteurs politiques, rupture du dialogue au plan social entre l'État et les syndicats du secteur social. Donc pour nous, c'est véritablement la création d'un cadre de dialogue. Pourquoi pas une seconde conférence nationale où toutes les forces vives vont se parler et de prendre conscience que nous avons qu'un seul Niger. C'est à nous de comprendre et d'œuvrer pour cela. Comme l'a dit la devise de notre pays, fraternité, travail, progrès, prendre conscience que nous sommes des frères et qu'on doit tous œuvrer pour le développement de notre pays. Quand on regarde l'événement international auquel on a assisté entre Donald Trump et les dirigeants nord-coréens, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui au Niger que les fils du Niger qui étaient tous des acteurs de la conférence nationale soient de l'incapacité aujourd'hui de s'asseoir sur une table pour penser le Niger avant de penser à eux-mêmes.
Dans le cadre de sa 16e journée d'action citoyenne, le cadre de concertation de la société civile nigérienne anti-loi de finances 2018 a organisé hier matin une table ronde au siège de l'association Alternative Espace Citoyen. Objectif à continuer le combat pour l'édification du public en vue d'une lutte citoyenne plus fructueuse, comme nous l'explique un des membres de ce cadre, Abdel Nasser Seydou, au micro de Michel Dégé.
Nous estimons qu'il y a des choses à corriger. Les acteurs, qu'ils soient politiques ou certains administrateurs ont l'obligation quand même de corriger leur comportement pour revenir à des normales. Parce que tout ce qui doit être fait, doit être fait dans l'esprit et la lettre de ce que la Constitution a bien tracé.
Est-ce que vous pensez que cela n'est pas en train d'être respecté donc ?
Pas du tout. S'il est en train d'être respecté, est-ce qu'on a besoin quand même de le relever ? Est-ce que s'il est en train d'être respecté, est-ce qu'on a besoin aussi de vivre certaines choses ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous le prenez par rapport à nos camarades, pour certains qui viennent de quitter les prisons, comment est-ce qu'un droit à une manifestation peut constituer une faute ? L'objectif qui est recherché, c'est d'amener les citoyens à tous les niveaux de responsabilité à comprendre qu'il y a vraiment nécessité et importance que les gens s'approprient et ces choses-là pour que dans le combat que nous menons, cela puisse nous servir quand même vraiment pour les orientations et le combat futur à mener. Donc nous estimons que vraiment aujourd'hui nous sommes sortis dotés quand même des moyens pouvant nous permettre de faire face à ce choses. Vraiment c'est ça qui est recherché.
Le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé ce lundi à Niamey une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours national de lecture en langue nationale des classes de CI et CP. 4 langues ont été retenues pour ce concours, à savoir le Hausa, le Zarma, le Fulfulde et le Kanuri. Selon le ministre de l'Éducation primaire, ce concours est le fruit d'un programme avec les États-Unis d'Amérique en vue de promouvoir les langues nationales. Daouda Mama Marté, au ministre de l'Éducation primaire, au micro de Mokhtar Hamadou.
Lorsque, en 2015, ce programme a été institué et installé au Niger, il s'est agi pour nos partenaires de choisir 4 langues sur les 9 qui sont actuellement en expérimentation au Niger. C'est pour cela que vous avez vu ici, il n'y a que 4 langues. Mais dans nos écoles traditionnelles, il y a 10 langues qui sont actuellement enseignées et nous allons, Inch'Allah, l'année prochaine nous lancer dans ce concours national en incluant, cette fois-ci, y compris les écoles financées par l'État du Niger.
Est-ce qu'il y a des avancées sur le terrain ?
Non, il y a des avancées. Vous avez prévu une fille qui vient de lire un texte en langue nationale, elle est au CI, alors que comparé par exemple au français, même parfois au CM2, on a des élèves qui n'arrivent pas à lire un texte en français parce que le français n'est pas leur langue, le français n'est pas notre langue. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'en Afrique, de toutes les études qui ont été faites, il est reconnu mondialement même que le processus d'apprentissage de la langue et même de l'éducation tout court est plus viable et accepté quand il est fait en langue nationale.
Le ministre de l'Éducation primaire, Daouda Mamadou Marté, la majorité des correcteurs du bac 2017 n'a toujours pas perçu ses frais de correction. Ils sont près de 3000 qui attendent toujours le paiement de reliquats. Selon le comité chargé de suivre la question qui s'est réunie ce matin au service bac, l'affaire est aujourd'hui portée auprès du médiateur de la République. Aliou Chebou, membre du comité, au micro de Gungou Mahamad Dantani.
Nous attendons toujours le redémarrage de ce paiement. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous avons été au ministère des enseignements supérieurs, voir le ministre. Nous l'avons vu, il nous a tenu son discours. On est venu même rendre compte au directeur des examens et qui lui aussi, à son tour, nous a donné sa version des faits. En fin de compte, nous avons même porté plainte au niveau de la médiature. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là aujourd'hui, le lundi, parce que nous attendons la réponse de la médiature. Le paiement avait commencé à son temps, mais c'est seulement un cinquième qui a été payé. Parmi 3000, il y a seulement 800 ou bien 700 qui sont payés, parce que la majorité d'entre nous n'a pas vraiment été payé jusqu'à présent.
Le canton de l'Arewa a désormais un nouveau chef. Il s'agit d'Amadou Sabo, âgé de 46 ans, qui a été élu le samedi dernier avec 81 voix. Il succède ainsi au défunt chef Amadou Gao. Écoutons la réaction du tout nouveau chef au micro de Abdelaziz Denyuma.
Je suis tellement fier. Je remercie Dieu. Je remercie tous ceux qui ont contribué à cet événement. Les chefs du village, toute la population de l'Arewa et les candidats. Je rappelle aux autres candidats que c'est parce que nous sommes des parents que nous avons déposé nos candidatures à cette chefferie. Donc notre lien de parenté est toujours là. Je leur demande d'apporter leur contribution pour qu'on puisse faire avancer notre canton. Il y a beaucoup de choses à corriger. La principale activité de l'Arewa, c'est l'agriculture, suivie de l'élevage et du commerce. C'est ce que nous voulons développer. Nous voulons aussi à ce que tout le monde respecte la loi. La loi existe déjà. Ce n'est pas un fait du chef du canton. Il faut que tout le monde respecte cette loi-là.
La partie magazine de cette édition à présent à suivre donc l'éclairage de Memouna Gazibo, magistrate de formation sur les rues du monde du code pénal concernant la mendicité au Niger. Elle est au micro de Alamine Ouachar.
Le code pénal du Niger a toujours réprimé les questions de mendicité. L'article 179 du code pénal du Niger pose les conditions de qui peut mendier, qui ne le peut pas. On dit que le vieillard de plus de 60 ans, de par son âge, est autorisé à mendier. La personne en situation de handicap peut également se donner à la mendicité sans que la personne ne soit inquiétée. En dehors de ces gens, toute personne qui, jouissant de leurs facultés physiques et mentales, se met dans la rue pour perturber les citoyens et s'adonner à la mendicité peut être poursuivie par les juridictions. Également, toute personne qui utilise son enfant ou l'enfant d'autrui pour exposer dans la rue et qui vit de la mendicité de cet enfant, non seulement on peut le poursuivre cette personne sur la base du code pénal comme étant une infraction, mais on peut également, sur la base de l'ordonnance 2010, poursuivre la personne pour traite de personnes, parce que la traite des personnes, c'est l'exploitation. Lorsque vous vivez de la mendicité d'un enfant, vous pouvez être réprimé. Le code est clair. Tout le monde peut s'associer, se retrouver au sein d'une association. Mais si des gens se mettent ensemble pour former une association de mendiants, ils seront poursuivis. Que vous soyez un tiers, que vous soyez un anonyme, si vous mettez un enfant dans la rue pour vivre de sa mendicité, vous pouvez être poursuivi. Ceux qui participent à la mendicité des enfants à titre de complice peuvent également être poursuivis. Je sais que religieusement, on dit qu'on peut mendier un jour parce qu'on a très faim, cela peut passer. Mais religieusement, lorsque nous avons interpellé les marabouts dans les formations des magistrats pour un peu aborder les questions de mendicité liées avec l'islam, Madame Halab nous avait clairement dit que la mendicité, ce n'est pas une pratique de l'islam. On peut mendier ponctuellement, mais dès que la situation de précarité disparaît, la mendicité doit être réprimée. Peut-être la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui peut expliquer l'impunité dont jouissent les auteurs de mendicité?
Fin de ce journal. Merci de votre attention.